Ensuite vient l'offrande du mandala. Alors ici, on commence par l'offrande du mandala de l'univers. Alors c'est pas dit, hein, mais c'est l'offrande du mandala de l'univers. Donc on fait un mudra. Voilà, si vous pouvez le faire, c'est bien. Si vous ne pouvez pas le faire, mettez quelque chose dans le creux des mains. On vient jamais les mains vides. Moi, j'aime bien prendre le mala, les 108 conceptions, hein, les 108 graines. On fait en sorte que les 108 graines, les 108 conceptions de notre esprit, ne fera aucun reproche à l'univers. Et qu'on va établir une vue pure vis-à-vis de l'univers. Ça va? Donc c'est une offrande de l'univers, mais c'est plutôt une mise à disposition d'une vue sur l'univers, et cette vue sera interceptée par les Bouddhas, parce qu'ils l'ont réalisée, cette vue. Vous voyez? Et donc les Bouddhas vont se réjouir qu'on a élaboré une vue vis-à-vis de l'univers, c'est-à-dire de notre domaine d'expérience. On va le chanter ensemble. Ô depuis l'axe tout puissant d'où gravitent les devenirs, terre, soleil et lune jusqu'à la moindre poussière, galaxie, planète, l'univers tout entier. Ce mandala est le domaine pur des Bouddhas. En la base primordialement pure, je dispose les cinq lumières de sagesse et j'offre aux cinq Bouddhas et leurs parèdres. Ce mandala, union de clarté vide, vide merveilleux de la création, manifestation de la compassion, ma vue pure en fait l'offrande perpétuelle. Puissent tous les êtres jouir du mandala. Om Mandala, Puja, Megha, Samudra, Saparana, Samaye, Ah, Om. Om Mandala, Puja, Megha, Samudra, Saparana, Samaye, Ah, Om. Om Mandala, Puja, Megha, Samudra, Saparana, Samaye, Ah, Om. Om Mandala, Puja, Megha, Samudra, Saparana, Samaye, Ah, Om. Om Mandala Puja Megha Samudra Saparana Samaye Ah Om. Donc l'offrande du mandala, sous-entendu de l'univers, de l'environnement, du domaine d'expérience, de la sphère d'expérience. Alors, l'univers tangible que l'on connaît là, dans notre vie incarnée, diurne, en état de veille. Ensuite, ça peut être l'univers, l'environnement expérimenté dans la période de bardo du rêve. Donc, c'est un environnement onirique. D'accord? C'est un univers qui sort tout droit de l'alaya, la conscience réceptacle, oui, des tendances. Ça peut être aussi l'univers, la sphère d'expérience post-mortem, donc dans le bardo du devenir. D'accord? Donc dans univers, faut entendre sphère d'expérience, et il y a différentes sphères d'expérience selon le bardo dans lequel on se trouve. Mais le principe est le même. C'est une sphère d'expérience, des portes d'extension, hein, ou cinq agrégats. On dispose d'un élément cognitif, le sixième élément, l'élément conscience, l'élément cognitif, et donc ce qui donne les domaines d'extension, qui est Che Zhu. C'est un des 12 facteurs mentaux. Mais on peut s'en tenir à l'univers tangible de la matière, hein, qu'on côtoie ici avec notre corps biologique. L'environnement le plus proche jusqu'à l'infini. L'environnement, l'univers qui est devant soi à l'infini, derrière soi à l'infini, à gauche à l'infini, au centre à l'infini, etc., etc. Alors, l'univers est une sphère d'expérience à la conscience. Oui, hein. Je réponds à une question écrite. Hein. C'est une sphère d'expérience. Donc, la faculté science, la faculté esprit, c'est de faire expérience, et de cette faculté vient, bien sûr, une sphère d'expérience. C'est co-émergent. Il n'y a pas de connu sans connaissance. Le connu et la connaissance co-naissent, co-émergent. Phénomène et connaissance. Voilà. Sphère de connaissance, domaine d'expérience, hein, c'est un champ de tout possible. Après, ce domaine d'expérience, ce champ de tout possible, répond bien sûr à une loi, la relativité, le lien de cause à effet, une causalité, une interdépendance, etc. Rien ne peut déroger à la loi, hein, de la causalité. Toutes sortes de causalités. L'univers obéit à une loi de causalité atomique, moléculaire, d'accord, et ainsi de suite. Donc la matière obéit à une loi qui lui est propre. Si on s'en reste à l'univers tangible de notre état de veille, d'un être incarné et tout particulièrement d'un être humain. Mais le traitement de l'information de cette champ possible dépend bien sûr de celui qui dispose de la conscience. On est des semchènes, on est des disposants de science, disposants d'esprit, cette faculté de connaître. Mais en plus d'une vie incarnée, donc la connaissance va aussi être plus ou moins limitée peut-être, enfin en tout cas va obéir à une modalité de l'incarnation aussi. Il va y avoir une complexion qui fait qu'on n'a pas la même expérience, hein, d'une espèce à une autre, d'un animal à un autre. Ensuite, même au sein même des humains, on n'a pas les mêmes expériences de l'univers. C'est les mêmes perceptions, les mêmes réactions, les mêmes conclusions, les mêmes interprétations. Donc là, on va s'en tenir à l'univers matériel. Et donc, j'avais entendu parler justement du Dalai Lama qui disait qu'il faudrait faire l'offrande du mandala avec la connaissance astronomique moderne. Donc c'est pour ça que je fais une introduction comme ça, avec le soleil, terre, machin, etc. Ça peut aider, mais par contre, c'est optionnel. Parce que le plus important, c'est l'aspect symbolique qui peut créer une synthèse. Alors des fois, on parle de l'offrande du mandala de l'univers avec le mont Meru, la montagne axale, on l'appelle. Alors là, le mont Meru, je l'appelle l'axe tout-puissant d'où gravitent les devenirs. C'est un peu comme notre axe pôle nord, pôle sud. Il y a un axe magnétique, d'accord ? Il est virtuel, mais opérationnel. Eh bien, on peut dire qu'il y a en l'univers un axe virtuel, opérationnel, mais qui n'est pas du cadre matériel, pas magnétique, bien sûr. Le mont Meru, c'est là où se greffent tous les degrés d'existence. Le plus bas jusqu'au sommet du mont Meru, avec le monde des dieux sans forme, machin, etc. L'aspect symbolique, c'est le deuxième chapitre, en la base primordialement pure. Et là, on fait une synthèse. Comme on est dans le mandala, le chiffre emblématique du mandala, c'est 5. Qui est cinq familles, les cinq Dhyani Bouddha, les cinq éléments, les cinq agrégats, les cinq sagesses. Et donc, en la base primordialement pure, on va disposer les cinq lumières. Dans le tantra, on utilise le biais symbolique. Et le biais, bien sûr, évocation de cette symbole, où ça marche. Et le biais, bien sûr, de la vue, de la vacuité, et de la clarté, et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce qu'on remplacerait par des vraies planètes, connues scientifiquement parlant, qu'on va améliorer la pratique de l'offrande du mandala, c'est pas ça. Mais bon, voilà, c'est pour montrer qu'on peut énoncer les planètes. Donc depuis l'axe tout-puissant d'où gravitent les devenirs, c'est l'équivalent du Mont Meru. Le Mont Meru, je l'appelle un peu comme l'attrape-mouche dans les fermes. Vous voyez, le ruban entortillé qui colle et une mouche se colle et meurt. C'est atroce. Cet axe d'où gravitent tous les devenirs, c'est un peu la trappe-mouche. Tous les êtres vont au plus évident. Ah, de la lumière, j'y vais. Saisi, collé, on meurt. Ça, c'est l'axe de tous les devenirs des êtres. Et parmi certains êtres doutent. Ceux qui vont s'éveiller commencent par un doute. Pourquoi j'aspire à ça? C'est ça que j'appelle gravitent les devenirs. Il gravite et puis à un moment, il cède à la soif, à l'ignorance et la perception séduction. Ils se font attraper comme les mouches. Cet axe, bien sûr, n'est pas... on ne peut pas le topographier. Il est atopique. Il n'est pas utopique, par contre, mais il est atopique. On ne peut pas le topographier. Un peu comme l'axe magnétique du pôle Nord, mais c'est encore matériel, on va dire. Hein. C'est une force magnétique. Ici, c'est une force du karma. Voilà. Donc, j'ai remplacé l'idée, le concept de Mont Meru, montagne axiale, par un axe tout puissant. On lui laisse toute puissance. Voilà, on est sous l'influence de nos saisies, la paresse, l'ignorance. D'où gravite et devenir. Et il s'agit de se libérer de cette gravitation du devenir, samsara. Alors après, terre, soleil et lune, jusqu'à la moindre poussière, ça va, galaxies, planètes, l'univers tout entier. D'accord. Ce mandala est le domaine pur des Bouddhas. C'est-à-dire un être éveillé a réalisé le trikaya de la nature de son esprit. Donc ils ont une vue pure sur tous les phénomènes, tous les connaissables possibles, tout le champ possible que l'univers de son état diurne, incarné, etc., si c'est un Bouddha comme Sakyamuni, il a comme sphère d'expérience ce qu'on appelle un mandala de l'univers. C'est-à-dire l'univers vide de réalité propre. C'est du fait d'avoir réalisé la vue qu'on est témoin que l'univers est un mandala. Inversement, en réalisant ce mandala, ben, on réalise la vue de notre propre esprit aussi. Relisez le passage du rosaire, hein, ça explique le commentaire du mandala, mandala yoga, puis mandala tantra. Là, je cite aussi Virokana dans le Mahavirokana tantra. Le mandala, c'est là où émergent les Bouddhas. En réalisant le mandala, on s'éveille à sa propre nature. En la base primordialement pure, la base toute renvoie à l'alaya. Alaya jnana. Kunchi yeshe. C'est-à-dire notre science, notre gnose primordiale. Qui est base toute, de laquelle, selon les phénomènes, la science prend la casquette conscience visuelle, la casquette conscience auditive. Vous voyez ? Donc, à la base, toute primordiale, il y a une science, une gnose, une faculté cognitive de base. Elle est primordialement pure. C'est la nature dharmakaya. Cette base, on peut la visualiser sous la forme de... Oui, vas-y, Myriam. Oui, adopter une vue pure va nous guider vers l'éveil. Et la réalisation de cette vue pure est l'éveil. Bien sûr, progresse sur un chemin, donc il nous faut des signes, des guides. Mais pour les reconnaître, ben, il faut se confronter avec ce qu'on va assumer, la vue pure, nos engagements, l'aspiration. Et puis à un moment, on va se poser la question, oui, mais j'aspire vraiment à quoi? Est-ce que j'aspire réellement, vous voyez? Ou je suis en train de faire du palliatif pour améliorer mon quotidien, pour rester dans la joie? La vue pure du mandala est un chemin vers l'éveil. Oui, enfin, la vue pure du mandala, c'est le fruit. La vue pure pour réaliser ce que veut dire mandala, c'est le chemin. Mais quand on a la vue pure du mandala, c'est l'éveil. Ça va? C'est la réalisation. Si on réalise la vue pure de notre domaine d'extension, c'est qu'il y a la vue pure, c'est que notre conscience base elle est coémergente. Donc la nature de la conscience est réalisée aussi dans sa vue pure. Il y a une coévergence, d'accord? S'il n'y a pas cette coémergence, c'est que on a objectivé l'esprit comme étant quelque chose, ou objectiver un phénomène comme étant quelque chose. Donc on a des vacuités un peu tronquées qui fait les différentes vacuités. Mais là, on est dans le summum, l'excellence, dans la vue de la coémergence, Sahaja. La base primordialement pure, l'alaya, on peut la concevoir, se la représenter sous la forme d'une base carré de couleur or, enfin de luminosité or, qui est en dessous de soi, en bas de soi. Ça, on le fait des fois dans des visualisations de Vajrasattva. Ben, vous avez fait Vajrasattva. Elle est immuable, on peut toujours se fier à cette base toute, elle est tout le temps là, comme l'ombre et son corps. Mais là, c'est une base, c'est comme la force gravitationnelle. Et on peut toujours se fier à la force gravitationnelle. Partout où il y a de la masse, il y a de la gravité. Partout où il y a de la conscience, il y a la science primordiale. Et on ne peut pas connaître en dehors de cette base toute. Donc quand on connaît, eh ben on peut faire la réalisation de la gnose de base. Si on arrête de prendre je connais quelque chose en soi, c'est-à-dire une altérité sur l'objet cognitif, une saisie d'une subjectivité sur le sujet connaissant, et une entité au fait de la connaissance, qu'on va dire quelque chose comme étant l'esprit, mon esprit, oui, ainsi de suite. Vous vous souvenez, c'est trois enfermements, triade. On enferme un objet cognitif comme étant quelque chose en soi, pour se prouver que je suis bien un sujet, mais un sujet en soi. Et donc, je suis bien propriétaire de quelque chose que je vais appeler l'esprit. Vous voyez? Ces trois cercles font qu'on va avoir trois entités. Au lieu de voir que l'objet, le sujet et la faculté cognitive est coémergente. C'est indivis. On ne dit pas qu'il n'y a pas de sujet, on ne dit pas qu'il n'y a pas d'objet, on ne dit pas qu'il n'y a pas la faculté connaître, mais non pas la réalité propre, on ne lui impute aucune réalité propre. Donc des fois, on peut avoir un moment de réalisation de l'objet vide de réalité propre, de mon imputation que je prête à l'objet, donc on réalise le phénomène objet coémergent vide, comme dans le Sahaja, apparence et vide coémergent. On a réalisé une première coémergence. Ce n'est pas encore l'éveil. C'est parce qu'on a ciblé notre vue, hein, notre discernement, notre prajna, sur un aspect de la cognition. Ici, si on comprend la coémergence que au moment de l'apparence et de la connaissance, il y a un contact, c'est l'expérience de ce contact est félicité vide. Et bien là, on brûle les étapes. Dire, on cible la globalité, la coémergence. Si on vise la coémergence, hein, c'est le but du Sahaja, on l'énonce hein, dès le départ, le Sahaja dans l'hommage. Et dans l'expulsion des obstacles, c'est le Sahaja, hein, puisqu'on veut comprendre la coémergence des trois corps, Trikaya, Voilà. Donc la base primordialement pure, on peut le représenter sous la forme d'un carré aussi vaste que l'univers. En dessous de nous, à la verticale, de couleur or, dans le sens que c'est pur depuis des temps sans commencement. Rien ne peut souiller l'or. D'accord? Ça peut s'ajouter, hein, le soufre, le fer, etc., s'ajoutent à l'or. Hein, on les sépare, l'or n'a pas été endommagé. C'est la nature potentielle. Je dispose des cinq lumières de sagesse. Donc ça, on le connaît. On peut les visualiser sous forme de cinq tiglés, cinq perles, cinq atomes, cinq soleils, aux cinq horizons. En face de soi, la sphère bleue à l'horizon, qu'on évoque mentalement. À notre droite, la sphère jaune. Vous faites les liens, hein, aux familles, hein. Vajra en face, Ratna à droite, une sphère rouge derrière soi, Padma. À gauche, la sphère verte, à l'horizon, à notre gauche, Karma. Au centre de ces quatre horizons, un autre horizon avec une sphère blanche, Bouddha. Nettoie toute vue, toute imputation, l'univers. Donc je dispose des cinq lumières de sagesse, hein, les cinq lucidités, les cinq intelligences. J'ordonne leur topographie faite d'un mandala symbolique. Et j'offre aux cinq Bouddhas et leurs parèdes ce mandala qui est l'union de clarté vide. À nouveau une coémergence. Cela apparaît, c'est vide de réalité propre. Cela est connu, il y a connaissance, mais c'est vide de réalité propre. Et au contact d'apparence et connaissance, c'est une expérience de félicité vide. Union ou coémergence, hein, c'est le même sens. Donc là, je précise, il ne faut pas offrir l'univers au Bouddha. Pas faire les faillots en disant, bon, j'offre au Bouddha. C'est que le principe de notre vue. Déjà, adopter une vue réjouit les éveillés. C'est comme un enfant qui veut un métier qui soit utile pour les gens. Vous voyez, si on entend un enfant qui dit ça, eh ben, ça nous réjouit. Il ne cherche pas à nous faire un cadeau, lui. Sa vue devient notre cadeau. Donc ici, il ne s'agit pas d'offrir un univers pour les Bouddhas. On montre au Bouddha qu'on veut, et qu'on y arrive éventuellement, que je dispose d'une vue pure vis-à-vis de l'univers. Et les Bouddhas sont seuls susceptibles à reconnaître la vue qu'on génère. Et ils se réjouissent comme un papa se réjouit avec son fils ou sa fille. Vous voyez? Ça fait cadeau, bien sûr. Très important cette attitude. L'offrande au Bouddha, il faut s'en méfier, hein. Les offrandes de bol d'eau au Bouddha, les lumières au Bouddha. Attention, l'attitude. Il ne faut pas s'infantiliser là, hein. Alors on dit souvent, les Bouddhas n'ont pas besoin de nos offrandes. Mais ils n'ont pas besoin non plus qu'on fasse les faillots pour qu'ils se réjouissent. La réjouissance vient d'un alignement, d'une transmission, de compatibilité de vue. Donc on génère cette vue, d'accord? Et estimer que s'il y a des Bouddhas qui sont là témoins, ben ils se réjouissent. C'est la seule façon de réjouir les Bouddhas, c'est que nous, on génère la bonne vue. La vue qui va éveiller. Alors, on dit bien sûr, je l'ai même dit, hein, j'offre aux cinq Bouddhas, c'est-à-dire, je mets à disposition. Voilà, je mets sur un autel les bougies, etc. Alors, ceux qui veulent voir une bougie, ils voient une bougie. Ceux qui veulent voir une offrande de lucidité au bien des êtres, voilà. Donc, les cinq Bouddhas et leurs parèdres, on les évoque, cinq intelligences de notre esprit. Cinq éveils, cinq intelligences de notre esprit. On peut penser aux êtres qui se sont éveillés aussi à ces cinq intelligences. Et on confirme cette vue-là. Vide merveilleux. C'est merveilleux ce vide. Ce n'est pas un vertige, C'est pas le nihilisme, c'est pas le néant. C'est un vide merveilleux de la création. Pas de vide, pas de création. Comme dans la Bible. Il y a un espace où il y a rien. C'est un non-ré. Un espace où il n'y a pas de chose. Il faut rajouter en soi. En philosophie, chose, c'est une entité. Donc il y a un espace où il y a non-ré. À partir de ce non-ré, on dit en latin ex nihilo, les apparences. Oui, c'est que bonheur. Il n'y a même pas besoin d'intervention d'un créateur. Parce qu'on dit, Dieu se retire, il revient, il voit que les apparences suivent une loi, elle est juste, parce que cela soit. Cela est bon, dans le sens, c'est juste. Mais il n'y a même pas besoin de son autorité. Hein. On laisse vivre l'univers, il est juste. Et c'est ça qui est intéressant. Un vide merveilleux de la création, manifestation de la compassion, dire que même la matière, en quelque sorte, dans sa création, nous renvoie à réaliser la vacuité de la matière. Elle est compassion, la matière. D'accord? Alors, ce n'est pas une intention ici. Alors, c'est un principe très chrétien aussi. La création de Dieu nous montre sa compassion. Après, il s'agit de savoir qu'est-ce qu'on entend par Dieu. Voilà. Une mise à disposition. C'est une mise à disposition dans l'enseignement bouddhique, on dit dewa chen. Chen, c'est disposer. Vous avez à disposition loisir de jouir. Disposer. Et là, on se dit, ben oui, pourquoi pas? Je vais avoir la vue pour pouvoir jouir. Et ça réjouit ceux qui sont déjà en train de jouir de cette vue et de ce mandala de l'univers. Donc, vide merveilleux de la création, manifestation de la compassion. Ma vue pure en fait l'offrande perpétuelle. Voilà. Si on maintient cette vue pure, c'est une offrande perpétuelle. Une gratitude. Et là, par contre, puissent tous les êtres jouir de ce mandala. Là, vraiment, on fait une offrande, enfin, voilà. C'est comme sortir d'un cinéma, vous vous souvenez? On sort d'un cinéma et on téléphone à quelqu'un. Oh, tu aurais dû venir, mais tu sais, je suis prêt à le revoir deux fois. Viens, il faut que tu vois ce film. Ou alors, viens, il faut que tu viennes voir manger dans ce restaurant. Vous voyez? Ben là, venez voir les êtres, voyez avec la vue pure. Ensuite, une formule d'un mantra, Om Mandala, Puja. Alors souvent c'est phonétisé Puja, c'est Puja, hein, rituel, c'est le rituel de la vie, quoi. C'est gratitude, c'est plus qu'un rituel. Puja, méga, alors ça on connaît, hein, méga octet, c'est sans fin, infini. Samudra, Saparana, Samayeahu. Là-dedans, vous avez en sténo tout ce qui vient d'être dit, mais il faut adopter l'attitude de cette offrande. Et je le fais 5 fois. Ici, cette vue pure vis-à-vis du mandala de l'univers matériel ou le mandala de l'univers onirique ou post-mortem veut dire que on ne fait aucun reproche au phénomène. On ne fait aucun reproche à la manifestation, à toute manifestation. Des fois, on peut entendre la vie m'illusionne. La vie ne nous illusionne pas. La vie, c'est un concept. Et c'est sur ce concept qu'on se fait des illusions. On dit souvent les apparences m'illusionnent. Les apparences ne nous illusionnent pas. Elles n'ont aucune intention. L'illusion, c'est un voile que nous mettons sur notre esprit, nous empêchons de voir en toute vérité, si j'ose dire, la véracité des phénomènes. Donc rien ne nous illusionne, personne ne nous illusionne non plus, au niveau cognitif. Donc là, ici, on exonère l'univers, on ne va pas essayer de changer l'univers ou trouver un vrai univers qui ne nous illusionne pas. On va s'attaquer à l'esprit. D'où le sens de Sakyamuni qui dit, j'ai enseigné un dharma de l'intériorité. De l'intériorité, c'est on s'occupe de l'esprit. Et il ne fait que parler que de l'esprit. Il explique la nature de l'esprit, c'est une phénoménologie, il donne les phénomènes qui viennent à l'esprit, qui fait qu'il peut y avoir une illusion, les phénomènes qui expliquent qu'il peut y avoir après réalisation, éveil, et ainsi de suite. Vous voyez? C'est une science des phénomènes, un dharma intérieur. Donc il ne s'agit même pas de changer le monde, il ne s'agit pas du tout de changer le monde, il ne s'agit pas de changer les autres. Il ne s'agit même pas de changer soi, sa personne, parce que la personne, c'est encore un concept généré par l'esprit. Il s'agit de enlever les bugs, les virus, les différentes illusions qui encombrent notre fonctionnement cognitif. Donc on s'occupe de l'esprit. Voilà pour ce matin. On va faire la dédicace. Que le mérite accompli ici même ébranle le tréfonds du samsara et que les êtres sortent de leur torpeur pour reconnaître la nature de l'esprit. La base est spontanément parfaite. Le chemin s'élève en toute évidence. Le fruit excelle en la base éternelle. Que ma dédicace triomphe des trois temps. Si chemin, je le consacre au bien des êtres. Si progrès, je le dédie au bien des êtres. Si fruit, je me remets au bien des êtres. Que ma dédicace s'exauce ici même.